Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Calade
100.9.
Et bonsoir tout le monde, vous êtes bien en direct sur Radio Calade avec Alternatiba. Et ce soir, dans le sillage de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, de la montée en flèche de l'extrême droite en France et en Europe, eh bien on va parler du droit des femmes, parce que ce droit des femmes est attaqué de toutes parts. Ce soir, dans cette émission donc, le rendez-vous bimestriel d'Alternatiba Villefranche, on parlera donc féminisme, le féminisme, une lutte à la croisée des luttes. Et quelques chiffres glaciaux et terrifiants pour commencer cette émission. 213 000, c'est le nombre de femmes déclarant avoir été victimes de violences physiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année en France. 2 minutes 30, c'est la fréquence des viols ou tentatives de viol en France. 28,5, c'est autant de salaires en moins pour les femmes, tout temps de travail confondu. Et 16,7%. C'est ce petit pourcentage des exploitations et entreprises agricoles exclusivement dirigées par une ou plusieurs femmes. Tous ces chiffres nous montrent l'ampleur de ce qu'il reste à faire dans la lutte pour l'égalité, pour la non-discrimination. Ils nous montrent aussi à quel point le groupe social des femmes est victime d'une multitude de dominations dans une multitude de champs sociaux. Alors comment les différentes formes d'oppression se croisent et s'entremêlent? Parler d'intersectionnalité, de convergence des luttes, qu'est-ce que cela apporte de nouveau? Qu'est-ce que l'écoféminisme peut apporter comme articulation sur les rapports de pouvoir entre différents groupes? Comment prendre vraiment en compte les différences multiples des femmes, tout en gardant le cap sur ce qui les unit en tant que groupe social? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, ou tenter de répondre à toutes ces questions, nous sommes avec plusieurs personnes en studio et à distance. En studio, nous sommes ce soir avec deux militantes du nouveau collectif de Nous Toutes à Villefranche. Bonsoir.
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 Nous sommes à distance et nous sommes avec Martha Pessigna, qui travaille sur les questions d'égalité hommes-femmes. Et nous sommes également à distance avec un éclairage de Luca Cortella, travailleur social caladois. Il travaille dans l'aide sociale à l'enfance, mais il est aussi très actif à la croisée de plusieurs luttes sociales, et notamment de la lutte féministe.
Tous les matins, la basse-cour se réveille avec le chant du coq.
Rassurez-vous, monsieur, je vous aimerai toujours. Toutefois, il faut bien vous le dire, il y a des étapes à franchir.
La France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme, au fond.
Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça
enfin, franchement...
Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Je ne serai plus
des hystériques,
votre belle, votre muse, votre mère, votre fille, votre femme, votre objet, votre sujet.
L'écoféminisme, le principe, c'est de dénoncer ce qui est au cœur de notre système économique et social, qui est la prédation.
Des cocottes, des célibataires.
Et on jette le corps des femmes quand on les viole et quand on les agresse. On jette la nature quand on prend des ressources et qu'on salit les océans.
Et Julien Bayou dénonce le macartisme de celle qui avait déclenché l'affaire il y a deux semaines, tout en rappelant son attachement au féminisme.
Votre celle qui prépare vos retours, vos départs, votre celle qui se tait pour que vous travaillez. Votre celle si douce parce que vous êtes pressée. Votre celle qui cuisine et vous vous amusez. Votre celle qui attend pour que vous disposiez.
Cherchez dans la question salariale ou au CAC 40 les raisons pour nous faire croire que le patriarcat existe encore alors que les femmes n'ont jamais été aussi libres.
Des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres. Toutes des mauvaises femmes.
Et oui, mon rouge à lèvres me rendra toujours invincible.
Et nous avions déjà diffusé ce montage excellent réalisé par JC, un militant d'Alternatiba, il y a deux ans, lors d'une précédente émission sur l'écoféminisme. Et on a choisi de le rediffuser car ils restent vraiment d'actualité et ce sont toujours les mêmes qui sont au micro. Merci Finkielkraut pour toutes ces brillantes sorties. En tout cas, ça montre encore une fois qu'il y a vraiment un grand, grand chemin à parcourir pour l'égalité homme-femme. Et pour ouvrir ce débat de cette soirée ce soir, je suis allée à la rencontre la semaine passée de Martha Pessigna, que j'ai interrogée.
Bonjour Martha, tu es consultante et formatrice sur l'égalité homme-femme et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Actuellement, tu vis à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, et tu as une expérience forgée autour d'un parcours international. Même si aujourd'hui tu travailles avec une coopérative qui s'appelle COP Égal, une entreprise coopérative dont les missions sont de former et d'accompagner des organisations à œuvrer plus efficacement à l'égalité homme-femme. On a eu la chance de se rencontrer par le biais de connaissances communes quand on préparait cette émission. Et en fait, ton parcours et ta posture sont intéressantes dans ce qui montre de l'imbrication de la question féministe à tous les pans de la société. Sur le côté écologique, l'écoféminisme, à ses origines, a été un mouvement politique qui s'est déroulé principalement aux États-Unis, où tu as vécu, et qui a été l'articulation entre les mouvements féministes et écologistes. Pour les écoféministes, et j'en parlais tout à l'heure, on a fait une émission là-dessus déjà il y a 2 ans, la destruction de la nature et l'oppression des femmes sont liées. Et du coup, dans ton parcours, Martha, ce qui nous intéressait de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, c'était un peu de discuter de cette articulation, de comment on la retrouve dans les différentes, comment tu as pu la retrouver dans les différentes expériences professionnelles que tu as eues, et dans quoi cette articulation témoigne de rapports de domination des femmes encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens et comment justement tu retrouves ces rapports d'intersectionnalité entre lutte féministe et autres luttes dans tes pratiques professionnelles aujourd'hui ?
Oui, bonjour et merci beaucoup Sophie pour l'invitation. Je vais peut-être commencer par retracer un petit peu mon parcours pour montrer en quoi justement j'ai été amenée à vivre, travailler aux États-Unis et à me pencher, observer les luttes sociales, les combats écologistes et sociaux qui étaient menés là-bas. Donc moi, j'ai fait un master de recherche en histoire sur l'histoire de la Fédération des femmes cubaines à Cuba. Je me suis intéressée en fait sur un gouvernement communiste, qu'est-ce qu'il avait fait ou pas fait pour les femmes. Et donc j'ai été amenée par ce biais à m'intéresser aux différents mouvements féministes, aux différentes organisations féministes en Amérique latine, puis aux États-Unis. J'ai pris conscience en habitant en Amérique latine et ensuite aux États-Unis qu'il y avait systématiquement une lecture très intersectionnelle du féminisme parce que les femmes étaient particulièrement vulnérables aussi bien à l'exploitation des ressources naturelles, mais qu'il y avait aussi une vulnérabilité particulière dans le contexte de conflits armés, une vulnérabilité particulière par rapport à la traite, par rapport à la pauvreté. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, d'avoir cette lecture nécessairement intersectionnelle du féminisme.
Et c'est effectivement ça qu'on appelle l'intersectionnalité et dans lequel on peut grossièrement parler d'écoféminisme quand on fait le lien entre toutes ces luttes-là et justement montrer que la femme est finalement autant en rapport de domination vis-à-vis de plein de pans, enfin sur plein de pans de la société. C'est vraiment ça qu'on entend par l'intersectionnalité.
Exactement. Disons que l'écoféminisme n'est pas officiellement dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité, mais moi je considère que l'écoféminisme est un combat intersectionnel puisqu'il montre justement comment une exploitation va impacter particulièrement les femmes, va impacter particulièrement les populations les plus vulnérables, donc pas seulement les femmes, mais aussi les personnes qui vont être immigrées, les personnes qui vont être en situation de pauvreté. Ça, c'est exactement le combat intersectionnel. Et l'écoféminisme, c'est ça, en fait. C'est une lutte contre le capitalisme qui montre que l'exploitation des ressources naturelles, elle va en fait, qui dresse un parallèle entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation du corps des femmes. Et elle montre, en deuxième lieu, que l'exploitation des ressources naturelles, que les politiques, les mesures qui vont détruire la planète, pour le dire grossièrement, elles vont particulièrement impacter les femmes et les populations les plus vulnérables.
Est-ce que tu as des exemples de ce que tu as pu voir en Amérique latine ou aux États-Unis qui peuvent nous aider à mieux comprendre ça concrètement, sur des exemples de vie?
Oui, tout à fait. Donc j'ai vécu, j'ai travaillé en tant que journaliste, puis en tant que responsable d'un service de communication en Floride et ensuite aux États-Unis. Je vais donner deux exemples qui m'ont intéressé donc dans ces deux États qui sont assez éloignés. D'abord, l'exemple de la Floride, c'est l'un des États qui produit le plus de fruits et de légumes des États-Unis. Je me suis intéressée, j'ai réalisé de nombreux reportages avec des collectifs activistes de travailleurs agricoles qui sont pour la plupart des travailleurs sans papier qui viennent d'Amérique latine et qui sont particulièrement, eh bien, qui vont subir de plein fouet les pesticides, enfin voilà, toutes le manque de protection qu'il va y avoir parce que, enfin voilà, il y a une agriculture intensive, eh bien, ce sont d'abord ces populations-là. Donc selon les fruits et les légumes récoltés, parfois c'est très masculinisé, parfois c'est très parfois c'est la majorité des femmes qui y travaillent. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça intéressant de voir que eh bien, ces populations faisaient le lien entre le combat écologiste et le combat syndical, on va dire, et en fait s'apercevaient à travers les maladies chroniques dont ils souffraient en tant que travailleur agricole, que la protection de la planète et changer de modèle agricole, c'était une nécessité pour eux, parce que c'était les premières personnes, les premières populations impactées par cette agriculture intensive, pesticides, etc. Je vais donner
Et là,
un deuxième exemple.
on voit une convergence finalement de lutte, ce qu'on appelle parfois ici convergence de lutte.
Exactement, tout à fait. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple que je trouve particulièrement intéressant, surtout dans le contexte actuel, c'est celui d'une personnalité qui est peut-être la personnalité à suivre et qui pourrait peut-être constituer une alternative à Donald Trump. Donc, on mise beaucoup de, on a beaucoup d'espoir.
Oui.
Voilà, on mise beaucoup d'espoir sur elle. C'est Alexandria Ocasio-Cortez. Je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui est élue du Bronx, donc à la Chambre des représentants à Washington. Mais elle vient du Bronx, elle vient d'un quartier populaire, elle est originaire de Porto Rico. Et en fait, elle s'est très rapidement positionnée dans l'aile gauche du Parti démocrate. Et donc, elle est connue pour. Outre son charisme, ses prises de position radicales. Et Alexandria Ocasio-Cortez est tout ce que déteste, représente tout ce que déteste Donald Trump et les masculinistes capitalistes qui sont aujourd'hui à la Maison-Blanche, parce que Alexandria Ocasio-Cortez est une militante féministe de longue date, militante contre les violences sexuelles, mais est aussi une militante environnementale. Elle a, pour vous donner un exemple très concret d'un combat qu'elle a porté, elle a en fait mis en lumière un problème de contamination très particulier qui existait dans le quartier du sud du Bronx. Le quartier du sud du Bronx, c'est un des quartiers les plus pauvres de New York. Donc à l'intérieur de la ville, des villes pardon, les plus riches des États-Unis, il y a ce quartier dans le sud du Bronx, qui est un quartier extrêmement ségrégué, avec une majorité de population noire et hispanique. Et il se trouve que dans ce quartier, en fait, pour l'urbanisation, en fait, ce qu'elle a montré, c'est en quoi la ségrégation urbaine, elle va d'abord exposer les populations les plus pauvres et les femmes au changement climatique et à la pollution de l'air. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Il y a une autoroute, une très grande autoroute qui passe pour justement éviter de relier de façon piétonne ou par le métro le sud du Bronx et Manhattan, qui est évidemment beaucoup plus riche. Cette autoroute qui passe, tous ces milliers de camions qui passent tous les jours, eh bien, provoquent une contamination de l'air qui fait que c'est l'un des quartiers des États-Unis avec le taux le plus fort d'hospitalisation infantile due à l'asthme. Donc les populations sont particulièrement vulnérables à la contamination de l'air. Et qui sont les personnes qui vont s'occuper des personnes les plus vulnérables, qui vont avoir la charge du care des enfants et des personnes âgées qui sont davantage exposées au cancer, à la contamination de l'air, à l'asthme, à toutes ces maladies chroniques? Eh bien, ce sont les femmes. Donc, in fine, en fait, cette ségrégation urbaine, elle va impacter les populations les plus pauvres. Et ce sont les femmes qui doivent s'occuper des personnes malades et des enfants qui vont davantage devoir s'en occuper. Donc, à travers cet exemple, elle a réussi à mettre en lumière ce problème de la ségrégation urbaine, l'impact que ça avait pour les populations les plus vulnérables et pour les femmes. Et elle a proposé ce qu'on appelle le Green New Deal, qui est un plan national basé sur l'emploi et la justice, donc un plan de décarbonisation de l'économie américaine, mais en ayant toujours en tête la justice sociale.
Et du coup, enfin, ça vient vraiment vers c'est ça vient vraiment vers ce que je voulais qu'on discute sur les leviers d'action finalement qu'on peut mettre en œuvre, finalement, très courtement pour terminer, on peut dire qu'ils sont finalement très politiques, ces leviers d'action.
Bah évidemment, en fait, ce que montre cette élue américaine, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait, en fait, le changement climatique, il impacte d'abord les personnes qui ont été rendues vulnérables par des plans d'urbanisation qui ont été décidés de façon politique. Donc là, c'est le cas de l'urbanisation, mais ça va être aussi le cas de destruction de forêts dans d'autres contextes, destruction de zones côtières pour le tourisme de masse. Et en fait, ce que montre Alexandria Ocasio-Cortez et ce que justement elle essaye de changer à travers son Green New Deal et les projets de loi qu'elle essaye tant bien que mal de mettre en place, c'est de non seulement mettre en place des mesures en faveur de l'écologie, de changement, de décarbonisation de l'économie américaine, mais en ayant toujours en tête, en faisant toujours le lien avec la justice sociale, parce que sinon, elle considère que ça ne va pas changer profondément, ça ne va pas apporter des changements profonds et vertueux.
Et ça rejoint bien effectivement ce qu'on dit souvent à Alternatiba, que changement climatique et justice sociale sont vraiment deux leviers, deux choses qui vont ensemble et qu'on ne peut pas combattre l'un sans l'autre. Merci beaucoup Martha pour ces exemples bien précis. On peut te suivre sur ton réseau professionnel LinkedIn où tu postes régulièrement des infos sur ce que tu fais et on prendra de tes nouvelles, je l'espère, par ce biais-là. Merci encore pour tes interventions et on se retrouve juste après cette pause musicale.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux, quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas, faites plutôt du cinéma, restez pucelles chez votre papa, élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuses, avenue du bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent, quand ils sont forts, ils font du sport, quand ils sont riches, ils gardent l'artiche, quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas, mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez la manque 4 fois par mois à la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.
Calade
100.9.
Et on se retrouve en studio en compagnie de Anne-Sophie et de Pascal. Rebonsoir mesdames.
Bonsoir.
Vous avez été actives à la création du collectif Nous Toutes Villefranche. Et on est très vraiment très contentes de vous recevoir ce soir ici. Anne-Sophie, la première question que j'ai envie de vous poser, de te poser, c'est sur ces questions de justice sociale, d'exploitation, d'inégalité, de domination, tout ce que Martha vient de nous montrer avec des exemples super précis. Bah, nous expliquer un peu comment elles sont au cœur un petit peu de la décision que vous avez prise de créer un groupe Nous Toutes Villefranche, puisqu'il y avait un groupe, on a reçu il y a 2 ans, Nous Toutes Rhône, ici, au micro, ouais, pour ce mois de mars. Et là, c'est trop bien que ce soit Nous Toutes Villefranche qui soit là. Comment toutes ces questions-là, elles ont été importantes, elles ont participé peut-être à la création du groupe de Villefranche ici?
Bah, c'est au centre, en fait, des objectifs de Nous Toutes. Donc déjà, on a ouvert fin août, début septembre, en étant une antenne de Nous Toutes Rhône.
Okay.
Donc on fait le lien avec ça, mais ça sera localement. Après, maintenant, on a tellement grandi, on est plus de 40 membres. Wow. Donc maintenant, on fait des actions. On est un groupe d'action indépendant et autonome. Mais en fait, oui, il y avait une demande sur le territoire. On ne le savait pas forcément hein, au départ, mais on a tout de suite répondu avec les sujets d'actualité aussi, hein, parce que notre première action, elle répondait en fait à un appel national de soutien à Gisèle Pélicot qui a fait la une des journaux. Oui, voilà, c'est aussi que en fait on amène en fait des sujets qui sont nationaux au niveau local aussi.
Il y avait un grand trou là-dessus.
Voilà.
Vous avez été surprise de voir autant de personnes réagir positivement. Exactement. Finalement à des appels que vous faisiez de relais locaux d'action nationale. Et ça a marché. Enfin, je veux dire, vous avez une quarantaine de personnes qui sont venues rejoindre le petit groupe qui s'est créé au départ.
Quoi. Oui, c'est arrivé rapidement, mais notamment aussi parce qu'on bénéficie aussi de la réputation de Nous Toutes. Mm-hmm. Et puis aussi, effectivement, parce que c'est une grande demande. On est dans une région où on ne parle pas de ces sujets-là, où les idées sont très conservatrices, où c'est beaucoup des votes de droite, voire d'extrême droite. Donc, on était étonnés justement de cette réponse, mais elle est là.
Et toutes ces histoires de domination ou d'exploitation des femmes, c'est quelque chose qui, pour le collectif sur lequel vous voulez faire avoir prise, c'est-à-dire mener avec un certain nombre d'activités ou d'actions que vous allez mener, des choses, peut-être Pascal ?
Alors effectivement, hein, le patriarcat existe encore, hein, malheureusement. Donc clairement là, on s'est saisi de tous ces thèmes. Effectivement, moi, par exemple, j'ai rejoint Nous Toutes qui venait de se créer en septembre. J'étais donc par rapport à Gisèle Pélicot.
Ok. Ouais.
Et c'est là que justement on s'est rencontrés et où on s'est dit bon allez, ouais, il faut aussi continuer.
Et du coup, ça montre la force du témoignage et le combat de cette femme pour que ça ne se passe pas à huis clos et la, ce qu'elle a dû prendre certainement sur ses épaules, finalement, il y a des conséquences directes, concrètes dans les territoires, vraiment, quoi.
Je pense que ça a vraiment donné un élan, effectivement. Ouais. Ça a ouvert des portes. Ça a permis à beaucoup de femmes de se dire oui, il faut y aller, quoi.
Okay. Cette libération de la parole de la femme, c'est quelque chose que vous voulez accompagner, notamment vis-à-vis des violences, de la thématique des violences faites aux femmes.
Ouais, totalement. Puis c'était une première pour Villefranche de rassembler autant de monde sur ce sujet. Okay. Et puis il y a eu même France 3 qui a couvert l'événement. On a été aussi pas mal de gens de Lyon qui sont venus prêter leur force à ce rassemblement. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres militantes et militants locaux hein, qui ont répondu à ce rassemblement et qui ont pris parole. Enfin, c'était notre première prise de parole, mais il y a eu beaucoup de prises de parole, ouais,
à ce sujet. Et aujourd'hui, le collectif, donc, il est tout jeune. Hein, on insiste aussi là-dessus. C'est-à-dire que vous avez été,
jeté dans le bain.
Voilà, jeté dans le bain. Et puis un peu étonné de voir autant de... Enfin, voilà, qu'il y ait un réel besoin sur le territoire de créer un espace de libération de la parole et un espace de retrouvailles aussi entre femmes. Donc, vous êtes un très jeune collectif. Vous êtes en pleine création encore.
Oui, on s'organise, on se coordonne, surtout que ça grandit vite. Du coup, on a besoin aussi de stabiliser nos bases, on a besoin aussi de se former sur des enjeux locaux, mais aussi nationaux. Par exemple, une de nos premières actions, d'une certaine manière, entre guillemets, c'était de visiter le musée des conscrits pour m'y appréhender la cause que porte le collectif féministe Nouvelle Vague, qui réclame l'inclusion des femmes au sein de la fête des conscrits à Villefranche et qui se heurte à un esprit très traditionnel, en fait, et conservateur, et très patriarcal et misogyne, du coup. Voilà, et puis ensuite, on a continué sur d'autres choses. C'est aussi ça, en fait, de faire partout de nous toutes Villefranche, c'est de faire des rencontres. Donc, on a rencontré l'avocate féministe Violaine de Filippi Abad pour sa soirée débat autour de son livre « Classé sans suite ».
Elle avait été reçue au Marais, à la librairie des Marais. Elle avait fait la présentation de son bouquin. Ouais. Il y avait un monde fou.
C'était
incroyable. Elle est extraordinaire, cette femme.
Ouais,
tu peux peut-être dire son nom pour nos auditeurs.
Oui, Violaine de Filippi Abad.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous procurer ses ouvrages ou à la suivre sur Instagram, elle est assez active.
Ouais, ça fait un état des lieux édifiant des défaillances et violences que subissent les femmes qui portent plainte pour violences sexistes et sexuelles. Il faut savoir que seulement 1% des viols aboutissent à une condamnation.
Ouais.
C'est rien.
Ouais. On avait reçu ici, il y a 2 ans, un collectif dans le Beaujolais qui s'occupait plus de travailler sur les violences faites aux femmes. Ici, vous avez vraiment envie aussi d'appréhender cette thématique dans les mois à venir. Est-ce que vous avez une vision un peu de ce que vous voulez faire ?
Je dirais dans toutes les actions, c'est au cœur de nous toutes, hein, les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Donc, on veut vraiment relier tous les messages par rapport à ça et sensibiliser et aussi faire savoir vers qui les femmes peuvent se tourner.
Vous nous donnerez en fin d'émission quelques numéros utiles qu'on notera et qu'on mettra sur la page de l'émission. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, parce que en fait, on a eu un bon accueil d'un réseau militant local et qui nous apporte leur soutien et qui aussi nous donne leur expérience du terrain et nous forme aussi. Il y a aussi ANV COP 21 et Alternativa qui nous ont formés sur certains sujets, ce qui prouve qu'il y a une convergence des luttes.
Dans le concret.
Et que du coup, on va se retrouver, c'est obligé.
Sur l'intersectionnalité, je sais que Pascal, c'est un sujet qui t'intéresse. Tu voulais nous en dire quelques mots de plus ?
Je voulais simplement dire qu'effectivement, à la base, je dirais, nous toutes se revendiquent comme féministes, mais ne se revendiquent pas forcément comme écoféministes. Mais là, on voit très bien que dans le monde qui est en train de se créer, quand on regarde les premières choses que raconte Trump, mais ce n'est pas que Trump, il y a partout... en Europe et sur tout le continent, des violences, je dirais, qui sont faites aux femmes et à la nature. Mmh. Et c'est vraiment d'une manière concomitante. Trump, c'est Orban ou les d'autres, et la France n'en est pas exclue, bien entendu. On a la montée du masculinisme. Et toutes ces luttes-là, ça va de pair avec aussi les luttes contre, ils arrêtent tous les programmes d'inclusion et aussi tous les programmes par rapport au réchauffement climatique. Mmh. On sort des traités, on sort...
Donc, drill, baby, drill, drill, drill. C'est un peu le mot qu'on entendait. Hein, voilà. Et c'est effectivement très écocide. Et donc, c'est là où on retrouve finalement une convergence de leur volonté de domination et d'exploitation.
Exactement. Et on sait, quand on regarde quelques chiffres aussi, que les connexions entre les changements climatiques et les violences sexuelles exacerbées, qui est au cœur de la lutte de nous toutes par rapport aux femmes, elles sont là. Et elles affectent, ces changements, ils affectent les filles et les femmes de manière disproportionnée. J'ai trouvé une étude vraiment intéressante de 2024 qui a été réalisée par des chercheurs de l'University College of London et sur une grande période, de 1993 à 2022. Et c'est la première qui établit un ensemble complet de preuves
avec les événements, entre les événements climatiques extrêmes, mmh. c'est-à-dire les tempêtes, les vagues de chaleur, les inondations, et une prévalence accrue des violences faites aux femmes.
Ok, il y a un lien direct.
Il y a un lien direct et qui a pu vraiment être établi.
Donc basé Donc, sur les sciences.
Basé, voilà, sur des éléments scientifiques. 190 pays, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées dans 190 pays. Et toujours ces connexions avec, en fait, la chaleur, l'humidité, le stress, l'insécurité alimentaire, bien entendu, le fait que les populations vont être obligées de partir, et notamment les femmes. Et c'est toujours les femmes qui sont en première ligne par rapport à ça. Je fais écho à ce que disait Martha tout à l'heure. Mais on le retrouve spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles, directement sexuelles faites aux femmes.
Et du coup, tu nous disais, Anne-Sophie, que c'était un point important pour vous d'aller travailler sur la sensibilisation. Et ça semble effectivement... quand on entend ce que tu nous dis, Pascal, et qu'on se dit, oulala, mais dans le mouvement de la lame de fond masculiniste, extrémiste qu'on voit là aujourd'hui, comment on fait pour continuer pour continuer notre combat? Et Martha nous parlait de AOC, et j'entendais récemment qu'il disait que chaque petite action compte et chaque victoire compte. C'est un petit peu là-dedans que vous vous inscrivez?
Oui, alors pour revenir quand même aux objectifs de nous toutes, hein, c'est de sensibiliser le public à ces violences et comprendre aussi leurs origines et leurs mécanismes. Mais c'est aussi d'agir au niveau politique. C'est d'exiger des politiques publiques efficaces, des vrais moyens et des méthodes adaptées. Voilà. Donc on prend peu à peu cet objectif pour nous, mais au niveau local.
Vous l'avez par exemple réalisé, notamment très récemment là pour ce mois de mars, avec une manifestation, le Village des Femmes, que vous avez fortement contribué à mettre en place le 8 mars. Donc c'était la journée internationale des droits de la femme sur la place de la mairie à Villefranche. Vous avez fait ce Village des Femmes, une manifestation qui pendant plusieurs heures a permis à plusieurs associations ou à plusieurs personnalités de venir présenter leur action en faveur de la lutte féministe. Et on a vu là l'intervention de plusieurs personnes, et on a notamment été au contact avec Luca Cortella, qui est travailleur social à Villefranche, militant au sein de ce collectif Nouvelle Vague dont tu nous parlais, et actif avec le comité de vigilance des enfants placés.
Bonjour Luca. Lors de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars dernier, tu as eu l'idée de faire une collecte de produits hygiéniques de première nécessité pour les jeunes filles de l'aide à l'enfance de Villefranche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi?
Tout d'abord, bonjour Anne-Sophie. En effet, c'était important pour moi parce que cette année à Villefranche, avec plusieurs organisations et associations comme Nous Toutes, Nouvelle Vague et Solidaires, on a organisé un village des femmes pour cette journée du 8 mars, à un moment de mobilisation et de solidarité important. Et donc, pour ma part, avec Nouvelle Vague, j'ai mis en place une collecte de protection hygiénique. L'objectif, c'était de venir en aide, aux jeunes filles qui sont accompagnées par la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, et qui doivent encore aujourd'hui financer d'elles-mêmes leurs menstrues. Donc, on pourrait même dire payer le prix de leurs règles, ainsi qu'aux femmes en situation de sans-abrisme, parce que l'accès à ces produits est un véritable parcours du combattant aujourd'hui. L'objectif à travers tout ça, c'est qu'on puisse créer du lien avec différentes structures pour que ces dons bénéficient au plus grand nombre de façon durable, parce que ces jeunes filles ne devraient pas se retrouver en situation précaire sur ces questions-là. Les protections hygiéniques ne devraient pas être un luxe, mais un droit. Ce type d'action, c'est aussi un moyen de visibiliser les inégalités qui persistent et de rappeler que la précarité menstruelle, c'est une réalité qui touche des milliers de femmes et de jeunes femmes en France. À travers mon engagement au sein du comité de vigilance des enfants placés, au quotidien, je suis entouré en contact avec des centaines de jeunes qui sont encore placés aujourd'hui et qui sont confrontés à ces difficultés, à cette précarité finalement au quotidien. Et nous, l'objectif, c'était qu'on puisse visibiliser ces choses-là, parce que ces jeunes filles qui sont seules en foyer et qui se retrouvent à devoir tout financer d'elles-mêmes. L'objectif, c'était vraiment qu'on puisse leur donner une voix, leur donner de la visibilité et qu'on puisse les accompagner au mieux. Et qu'on puisse aussi, tout simplement, leur faire bénéficier de tout ça. Et voilà.
Et vous avez collecté beaucoup de protection, Lucas?
Oui, on s'est retrouvé avec une trentaine de sacs, pardon. On a des personnes qui sont revenues à deux ou trois fois pour nous ramener d'autres dons. On a eu des tampons, des serviettes hygiéniques, on a même eu des cups. Donc honnêtement, ça a très très bien marché. On a eu des très bons retours et on est très content de la tournure de cette action.
Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Lucas. C'était en tout cas
Merci à toi, Anne-Sophie.
vraiment un beau moment de cette journée-là. Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux. On mettra le lien dans la page de notre site de l'émission. Merci encore, Lucas. À bientôt.
Merci à toi, Anne-Sophie. À bientôt.
Et ainsi, lors de notre préparation, Lucas, mais d'ailleurs aussi vous, Anne-Sophie et Pascal, pendant qu'on discutait pour la préparation de cette émission, vous aviez alerté sur la nécessité de mettre un coup de projecteur comme ça sur la sensibilisation. La journée du 8 mars, elle a un peu, enfin, elle a même beaucoup participé à cet objectif-là. Est-ce que, Anne-Sophie, tu peux nous dire quelques mots sur ce village que vous avez organisé?
Oui, avec plaisir. En fait, déjà, ça montrait une cohésion militante, c'était important. Ensuite, on était du coup de nombreux acteurs visibles avec nos stands. Il y avait Nouvelle Vague, il y avait Femmes Égalité, Union Solidaire et la CGT. On avait mis, nous, sur notre stand, nous toutes, à disposition des jeux et des outils ludiques pour sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles. C'était la première fois
Alors,
qu'on
par
se
exemple,
retrouvait
c'est quoi?
face directement à sensibiliser directement les gens et
c'est
à parler
des
et à
objets,
discuter.
Enfin, des activités
Les
ludiques.
outils.
Ouais, les outils
Oui,
ludiques,
par
par
exemple,
exemple.
on a un violentomètre qui mesure la présence et le degré de violence dans une relation, hein, que ce soit
Donc,
de couple ou autre.
En discutant avec une personne qui vient au stand, vous arrivez à vous faire avec elle ce violentomètre?
Oui, voilà, c'est ça. Ça a beaucoup plu aussi aux hommes, apparemment. Donc, c'était intéressant aussi de voir à qui ça faisait réagir et qui ça intéressait. Du coup, en fait, ils regardent en fait s'ils comprennent les degrés de violence et parfois on ne détecte pas la violence.
Et on l'a fait vraiment aussi sous une forme ludique. On avait travaillé en amont là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de mettre en lien. Par rapport au violentomètre, donc, et ça, bon, puisqu'on était toutes sur le stand, c'était intéressant de voir les questions qui se posaient et comment est-ce qu'on faisait la priorité entre toutes ces violences.
D'accord.
Et ça, c'était intéressant de voir que des choses qui semblaient assez acquises, finalement, l'étaient pas tant que ça.
Et
alors que souvent, des gens étaient quand même, venaient...
Avec un a priori déjà, sensibilisé déjà.
Ouais, voilà,
on n'était pas
exactement.
Sur une population qui était complètement
Tout à fait.
Non au courant là-dessus.
No, okay. Exactement.
Et tu as des exemples qui te restent en tête, par exemple, des choses comme ça?
Je dirais que c'était, par exemple, compliqué sur les violences qui sont les plus fortes.
Mmh.
D'avoir une priorité
okay.
Par rapport aux relations sexuelles non consenties,
okay.
par rapport à la violence.
Okay.
Comment est-ce qu'il fallait mettre une priorité? Parce qu'on me demandait vraiment de classer de la moins forte à la plus forte.
Okay.
Et ça, quand on y réfléchit, bah, c'est pas si évident que ça.
Sachant que la menace la plus forte était de menacer avec une arme et que c'était pas forcément considéré comme une violence par tout le monde.
Ah
donc,
ouais.
Vous voyez le degré, voilà. Voilà, donc c'est important de sensibiliser parce que si on en est à là, voilà.
Et donc, cette journée, il y a eu quoi encore?
Oui, on a aussi profité de proposer de signer une initiative citoyenne européenne. C'est My Voice, My Choice. C'est pour une prise en charge de l'avortement par l'Union européenne pour les femmes qui n'y ont pas accès au sein de l'Union européenne. Il y a plus de 1 million de signatures aujourd'hui. Et puis, on avait un énorme un mot fléché géant, mmh. voilà, qui faisait découvrir des termes féministes aussi, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui décrivent aujourd'hui notre réalité et qui n'étaient pas là dans le langage.
Et on voit l'importance des mots aujourd'hui, justement, quand
ouais.
on voit l'administration Trump qui est en train de supprimer tous ces mots, des mots qui veulent dire quelque chose. Est-ce que tu as un exemple à nous donner?
Gaslighting, mansplaining.
Alors, vas-y, par exemple, mansplaining.
Bah, mansplaining, c'est quand un homme va nous reprendre pour nous réexpliquer ce qu'on a déjà expliqué, en fait. C'est comme si, en fait, sa voix comptait plus que la nôtre et que, finalement, ouais, c'est un peu dans ce genre-là. Voilà. Après...
On a rencontré, nous, sur ce stand, on a rencontré une participante de Nouvelle Vague qui était... enfin, qui a pris la parole à ce moment-là, et ils ont déclamé un texte qui nous a beaucoup, beaucoup plu, qui est un texte qui explique un petit peu toutes les violences, enfin, en tout cas, non, tout, dans toute la routine de vie d'une personne, à tous ces moments où, en fait, se jouent ces histoires de domination d'exploitation, j'allais dire, et ce le mot est peut-être un peu fort, mais ce racisme quotidien qu'on peut avoir pour les femmes. Et on leur a demandé de nous faire un joli enregistrement de ce texte qu'on a un peu raccourci. Et donc ça, c'est on va vous passer un texte qui est dit par Sylvie de Nouvelle Vague et qui vous raconte la journée de Louise.
Nous avons rencontré Louise. Louise n'est pas féministe. Elle pense qu'il y a des enjeux plus importants. Il y a eu tellement de progrès concernant la condition de la femme. Elle a un bon travail, un bon salaire, des relations saines avec son conjoint. Elle se sent libre d'aller où elle veut, vêtue comme elle veut. Pourtant, le sexisme ordinaire est omniprésent dans son quotidien. Lundi, Louise se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son conjoint. Elle déjeune, se prépare en vitesse mais avec soin. Il faut être présentable pour avoir l'air sérieux au travail. Assez maquillée pour ne pas paraître négligée, mais pas trop pour ne pas avoir l'air vulgaire. À 7h, vite, il faut aller réveiller Léonie pour ne pas être en retard à l'école. Mince, les poubelles n'ont pas été sorties. C'est de sa faute, elle aurait dû y penser la veille et demander de l'aide à son conjoint. Tant pis, elle les sort en vitesse et court avec sa fille pour attraper le bus. Premier arrêt, l'école de Léonie, où la maîtresse l'accueille par un « Tu es belle, Léonie, avec ta jolie robe ?» Retour dans le bus, elle met ses écouteurs pour éviter quelques regards insistants. Elle arrive au travail un peu stressée, appelle son conjoint afin d'être sûre qu'il s'est réveillé. Son chef la salue et constatant qu'elle n'a pas l'air bien, se permet « Eh ben, tu es plus jolie quand tu souris, t'as tes règles ou quoi ?» Le midi, elle va manger au restaurant avec son collègue. Évidemment, le serveur se trompera en servant la salade à Louise. Et c'est à monsieur qu'on fera goûter le vin. Durant le repas, il fait quelques blagues déplacées. Elle est mal à l'aise mais n'ose rien dire. Elle ne veut pas jouer les rabat-joie. Après son travail, en marchant pour se rendre à l'épicerie, elle pense à ce qu'elle doit acheter. Surtout ne rien oublier. Soudain, un « Mademoiselle, t'es trop charmante !» Elle doit acheter des serviettes hygiéniques. Dans le même rayon se trouvent des couches pour enfants. Ça lui fait penser à la question qu'on lui pose si souvent. Et le deuxième, c'est pour quand ? Elle n'en désire pas, mais elle sait qu'elle passe pour une égoïste en disant ça. Elle cache son paquet de serviettes hygiéniques sous d'autres articles. Elle n'aime pas qu'on voit ça dans son chariot. Chargée de ses courses, elle passe récupérer Léonie à la garderie. Après avoir rangé ses courses, elle douche Léonie et la met devant Cendrillon, le temps de préparer le repas. Son conjoint rentre du travail et ils mangent tous ensemble. Après le repas, pendant que monsieur couche Léonie et lui promet qu'elle est en sécurité puisque papa est là, Louise débarrasse et fait la vaisselle. Puis, Louise file sous la douche, il faut qu'elle se rase les jambes. Ça la fatigue de devoir le faire, mais elle a peur d'être jugée, surtout par son conjoint. Sitôt sortie de la douche, elle étend le linge, elle se dépêche, son conjoint l'attend pour regarder le film. Après le film, elle se couche en se disant qu'il y a ailleurs dans le monde des femmes qui n'ont pas la même liberté qu'elle, la même autonomie. Finalement, sa situation est plutôt enviable. Alors pourquoi les lundis, mardis, mercredis, toute la semaine de Louise sont chargés de sexisme ? Parce que le sexisme s'incarne aussi à l'échelle micro, dans des paroles, des gestes subtils, insidieux et surtout quotidiens. Si le sexisme ordinaire passe inaperçu pour beaucoup, il est lourd à porter au quotidien pour les femmes. Un sexisme qui s'exprime sans violence particulière, mais qui, à partir de sa construction au quotidien, contribue à perpétuer le patriarcat ainsi que le carcan des rôles masculins et féminins. Le sexisme, voyons-le, disons-le, stoppons-le.
Et c'était donc un super texte dit par Sylvie de Nouvelle Vague et ambiancé par JC, notre main magique et nuit courte militant qui nous fait tout l'ambiançage et les mises en son. Grand, grand merci à lui. Il a été hyper réactif en quelques heures dans la nuit. On ne va pas terminer cet entretien et ce thème sur le féminisme et sur la nouvelle activité du collectif Nous Toutes à Villefranche sans que vous nous donniez quelques numéros importants.
Oui, oui, on ne veut pas partir sans rappeler que toute femme victime de violence peut appeler le 3919 ou par SMS. Si vous ne pouvez pas appeler, laissez un message au 114. En cas d'urgence, appelez le 17. Et sachez qu'il y a aussi un centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Villefranche qui s'appelle Tandem, 90 rue Paul Berthe. Prenez rendez-vous au 04 81 04 11 90.
Merci beaucoup. On mettra bien sûr toutes ces informations sur la page de l'émission de Alain Ronchange. Merci, merci à vous pour avoir été là aujourd'hui. Pascal, Anne-Sophie en studio, Marcia et Lucas et Sylvie à distance. Bon boulot pour le collectif Nous Toutes Villefranche. On sera ensemble et on ne saurait pas terminer encore une fois ce thème sans l'intervention de Bernard de la librairie des Marais qui va nous proposer quelques lectures à bon propos.
Je vous propose dans cette petite chronique de découvrir Corinne Morel-Darleux. Alors, Corinne Morel-Darleux, vous la connaissez peut-être puisqu'elle est éco-socialiste, elle est très impliquée à la fois dans la cause féministe mais aussi dans la cause sociale et militante. On l'a beaucoup beaucoup repérée avec un titre qui était plutôt coulé en beauté que flotté sans grâce chez Libertalia. Un texte très fort où elle emprunte un petit peu à Romain Gary, à Pasolini, les textes pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et dans la surabondance de ce monde. Et il y a un texte sur lequel je voulais un petit peu attirer votre attention qui est La Sauvagière. C'était son premier roman aux éditions d'Alva, très belle maison puisque c'est aussi une maison de femmes qui ne publie que des femmes. C'est sorti depuis en point. Et La Sauvagière, c'est l'histoire de cette femme qui a eu un grave accident de moto et est restée très très longtemps inconsciente. Et on la retrouve, on va dire presque en mode de redécouverte de la vie, dans une maison, dans la montagne, avec deux femmes qui sont censées prendre soin d'elle. Et dans cette maison, en fait, le plus important, c'est comment cette femme va se reconnecter à la réalité, va se reconnecter au monde grâce à la nature. Grâce à la nature, à tout ce qu'elle elle implique, avec le soutien de ces deux femmes qui sont un duo un peu mystérieux, comme ça, que l'on devine, où on sent que la nature a toute sa force. Et comment cette fille va se reconstruire et va surtout se connecter, elle qui est une fille de l'asphalte, va se reconnecter avec cette nature au point de rentrer presque en symbiose. Donc n'oubliez pas de découvrir, de lire les beaux textes de Corinne Morel-Darleux, en particulier La Sauvagière, premier roman.
Et merci beaucoup Bertrand, que j'ai nommé Bernard à mauvais escient juste avant l'introduction de cette chronique. Allez vraiment faire un tour à la librairie des Marais pour lire La Sauvagère, c'est un bouquin fantastique. Et on continue avec une petite pause musicale.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, quel père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort.
Calade
100.9.
Un magnifique chant qu'on vient d'entendre à la gloire des femmes en deuil de Mathilde. Merci encore à tous pour un moment un peu grave, hein, une chanson un peu grave pour terminer ce thème, mais ça valait le coup. Je ne vous rappellerai pas les chiffres terribles de cette ouverture de sujet. Et on tourne la page maintenant et on repart sur la chronique régulière qu'on a dans ce moment de « Alors on change », sur le grand projet inutile local du territoire, le port fluvial du Bordelan, de M. Pomeray, maire de Hans.
Les actualités du port de plaisance d'Hans. Allô les élus ? Eh oui, cette chronique débute sur une interpellation que nous venons de lancer auprès de quelques 200 élus de notre territoire. Élus intercommunaux de la Comcom des Pierres Dorées et de la Glo de Villefranche, certains élus départementaux, régionaux et sénatrices du Rhône. Les élus sont celles et ceux qui nous représentent, celles et ceux qui ont été désignés par le suffrage universel pour défendre l'intérêt public. Or, ce projet de port fluvial sur la Saône à Hans, sur le site de Bordelan, va engager près de 39 millions d'euros d'investissement, dont une partie de fonds publics. Dans ce courrier, que nous avons également communiqué à la presse, nous soulevons les coûts dispendieux de ce projet, interrogeant les élus sur les priorités de financement public actuelles. Ainsi, à Hans, on restreint les budgets de rénovation des écoles, mais on prévoit des investissements pour les loisirs nautiques de celles et ceux qui ont les moyens de se payer un bateau. Au-delà de ce courrier, nous poursuivons nos actions d'information auprès de la population ansoise qui nous semble bien peu au courant de ce qui se trame. Nous étions présents à la foire du miel à Chazet-d'Azergues il y a une dizaine de jours et nous avons pu rencontrer le public de cet événement pour dialoguer sur les questions autour de ce projet. Quels accès à la plage du Colombier pour les années futures? Quid des places de parking gratuites? Quid des sentiers de balade le long de la Saône? Quel circuit de circulation, alors que le maire d'Hans nous a parlé d'une projection à 1 million de visiteurs par an sur ce futur port de plaisance. Si cette lutte vous intéresse et que vous souhaitez soit en savoir plus, soit nous rejoindre, contactez-nous par email. Non au port fluvial de Bordelan, plus on est nombreux, plus on rit dans la lutte.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre, on a encore pas mal de choses à faire sur ce grand projet inutile local territorial. Merci à tout le monde pour ce beau thème. On va, avant de se quitter, rappeler quelques films, événements, quelques dates que le groupe local de Villefranche aime bien faire en fin d'émission. On vous invite ce jeudi soir, à jeudi 3 avril à 20h, à une nouvelle séance de Alter Ciné, ce partenariat entre Alternatiba et les 400 coups à Villefranche. C'est un film qui s'appelle Planète B et on aura le plaisir de recevoir la réalisatrice. Jeudi 3 avril, 20h aux 400 coups. Et puis aussi, ouvrez vos agendas. Alors là, ce n'est pas pour tout de suite, mais on prend de l'avance. Samedi 24 mai, on organise une nouvelle Vélorution à Villefranche avec Vuvib, l'assaut pour le vélo urbain, et avec l'Oasis qui va vendre des vélos un peu avant, une semaine avant, le 17 mai, parce que depuis quelque temps, on a commencé des ateliers de réparation Vuvib sur un local à Glaizé. Et tous ces fonds-là de vente de vélos iront à la reconstruction de l'Oasis et permettront à être encore plus nombreux le samedi 24 mai pour la Vélorution. Voilà, c'était un petit peu les événements à venir. Un grand merci encore à nous toutes. J'ai eu le plaisir de travailler ce dossier avec Anne-Sophie, Pascal, mais aussi plein d'autres petites mains qui étaient derrière. C'était important pour nous de faire ce thème-là aujourd'hui. Vous retrouverez sur la page de l'émission le WhatsApp, enfin toutes les informations pour rejoindre le collectif Nous Toutes à Villefranche. N'hésitez pas à nous contacter si vous galérez pour le faire. Et puis, merci à toute l'équipe d'Alternativa pour avoir encore une fois tenu le pari de cette émission géniale et bénévole. Merci à Monique, à JC, merci à Pierre et à Gaëlle qui sont là en face de moi, à la technique, vous avez assuré. Et on a un grand plaisir à se retrouver dans 2 mois et en rediffusion plusieurs fois sur les antennes de Calade. À bientôt.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade, ma radio.